France Inter.
Bonjour Blockbuster, j'apprends avec regret que c'est la dernière année où vous nous ferez rêver, frémir et où vous nous apprendrez plein de choses. J'ai 50 ans et j'ai appris un tas de choses incroyables sur plein de séries, plein de dessins animés que je regardais petite, plus grande. Et même maintenant, j'apprends des choses sur les jeux vidéo que je ne pratique pas parce que je suis pas très douée en fait. Et je n'ai pas de mégagnie grâce à ça. Donc, merci beaucoup Frédéric pour la bonne humeur, pour les super sujets et pour tout ce que vous nous avez apporté. Et continuez comme ça, vous êtes tous géniaux dans votre équipe.
Salut Frédo, c'est Manu de Bretagne. Bon, ultime saison pour toi apparemment. Merci à toi et à toute ton équipe pour cette saison de Blockbuster. Et t'es le gardien de mon âme de geek. J'ai écouté hier l'émission sur les schtroumpfs sur mon chantier. Tout le monde s'est marié en écoutant schtroumpf là donc sur mon enceinte. L'envie de podcast de Blockbuster et petite dédicace à mon préféré. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier.
Salut Fred, salut Blockbuster. D'abord un gros coucou et un grand merci pour toutes ces années de richesse culturelle, de passion geek, de jeux vidéo, de manga, de lecture. Tant de choses à découvrir. Alors, un grand merci pour toutes ces années qui ont accompagné toutes mes pauses tous les jours de travail et surtout en tant que bibliothécaire. Voilà. Plein de choses à acheter pour mes usagers qui font leur bonheur et qui en profitent chaque jour. Donc vraiment, merci, merci et j'espère à très bientôt.
To be or not to be, not to be.
Éric Legrand, Laurence Badi, Alain Dorval, Odile Schmitt, Patrick Poivet, Jean-Michel Martial, Médondo, Lucie Dolène, François Letcha ou Michel Leroyer. Si vous écoutez Blockbuster depuis plusieurs années, ces noms doivent vous dire quelque chose. Ce sont quelques-uns des comédiens et comédiennes qui ont prêté leur voix à ces personnages de séries ou de films avec lesquels on a grandi. Parce que si aujourd'hui, avec l'explosion du nombre de plateformes et du nombre de séries, on a souvent le loisir de pouvoir regarder ces films ou ces feuilletons en version originale, il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, à l'heure du film du dimanche soir et du rendez-vous familial, où on n'était pas encore tous dans sa chambre à regarder son écran, les véritables passeurs d'histoire, ça a toujours été les comédiens de doublage. Nombre de cinémas continuent majoritairement de proposer des versions françaises des grands films du moment. Nombre d'animés ou de jeux vidéo sont regardés en version française. Combien de séries devenues cultes aujourd'hui doivent une bonne partie de leur succès aux comédiens de doublage ? Amicalement Vôtre, Starkey et Hutch, Arabesque. Combien de stars américaines ont la voix de leurs comédiens ou comédiennes de doublage dans nos inconscients collectifs ? Tellement d'éléments composent une star finalement. Son écriture, la manière dont il est filmé, le cascadeur qui le double et bien évidemment la voix par laquelle il nous fait rire ou pleurer. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement entouré par des comédiens de doublage, je suis finalement entouré par des petits éclats de stars.
France Inter, Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine ?
Non, sûrement pas.
Alors ? La tôle, moi, j'y replongerai pas.
Alors raccroche une fois pour toutes.
Je fais ce que je sais faire. Je monte des coups. Tu fais ce que tu sais faire. T'essaies d'arrêter les mecs comme moi.
Moi, si je suis riche, je leur donnerai presque tout mon argent à ces pauvres.
Pourquoi pas tout ?
J'en garderai pour moi et mes copains.
Pour maman et papa, quand ils seront vieux.
C'est très bien, les enfants.
Et quelques sous pour toi aussi.
Puisque tu donnes tout.
Et aussi pour le marchand de sable.
Oh, vous êtes vraiment trop mignons.
Parfait. Les gamins, vous prenez tous un fusil, une bière et des munitions. Et pourquoi j'ai pas eu de flingue ? Super ! J'avais le même quand j'étais au Vietnam.
T'as pas fait le Vietnam, Cartman ?
Est-ce que tu étais cantonné à Da Nang ?
Cartman invente tout le temps des cracks nets, faut pas croire tout ce qu'il dit.
Hé, je vais t'exploser la tronche, canard !
Quand même, ça fout de rien de prendre quelqu'un en stop. T'as vu son petit cul ? Larry, il n'a pas un petit cul comme celui-là. On garderait une Cadillac à l'ombre de son cul. Excuse-moi, mais je suis pas d'humeur à avoir de la compagnie.
En fait, je pensais que star du cinéma, c'était un métier hyper bien. On donne des autographes, on embrasse des filles dans la rue, mais pas du tout. C'est même pas un métier. La vie, elle continue pareil. D'ailleurs, ma mère, elle a dit que je pouvais pas rester trop longtemps avec vous, parce que demain, il y a école.
Vous venez d'entendre José Luciani et Jacques France dans Hit, Bonne nuit les petits avec Brigitte Lecordier, Barbara Tissier, Pascal Renwick, South Park avec Gilbert Lévy, Thierry Vermus et Christophe Lemoine, Thelma et Louise avec Béatrice Delph et Annie Le Judec, et Titeuf avec Donald Renew. On a toujours mis un point d'honneur dans les extraits qu'on diffuse dans Blockbuster à citer celles et ceux qui ont prêté leur voix aux stars des films et séries dont on parle. Art de l'ombre ô combien essentiel, il nous semblait indispensable à une heure où cette profession est menacée par l'intelligence artificielle de donner la parole aux comédiens et comédiennes qui ont si souvent, à leur manière, participé à l'aventure Blockbuster. Et j'ai le privilège d'être entouré de 5 d'entre eux, et pas des moindres. Alors je vais pas pouvoir dire tout ce que vous avez doublé, sinon on n'aura plus d'émission. Mais Céline Monsara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la voix française de l'actrice Julia Roberts et vous êtes aussi Dory dans Nemo, ainsi que la princesse Anastasia.
Absolument. Et Bulma dans Dragon Ball.
Et Bulma, on va y venir. Voilà. Justement, on parle de Dragon Ball. Donc, Brigitte Lecordier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la voix française de Son Goku et Gohan.
Absolument.
Ainsi que Oui Oui.
Ah, ainsi que Oui Oui et bien d'autres.
Crossover. Donald Renew, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la voix des acteurs américains Jesse Eisenberg, Adam Brody, mais aussi la voix de Titeuf, Reese dans Malcolm, Christophe dans La Reine des Neiges et Spider-Man.
Ouais, ça fait déjà un bon paquet.
Avec nous également, et on est ravis, Philippe Etier et Véronique Augereau, bonjour.
Bonjour.
Amoureux dans la vie et dans le travail, puisque vous êtes depuis 35 ans les voix françaises de Homer et Marge Simpson.
Ouais. On peut même dire 36.
36 ans.
Allez hop, on passe à 36. Allez, on attaque la 36e année.
Elle brille comme si elle voulait montrer son bonheur. Ça, c'était encore jamais arrivé.
C'est un peu normal, il faut peut-être que je t'explique. Regarde.
Oh, tes grands-pères.
Toi aussi, tu as eu deux grands-pères.
Ce ne sont pas des grands-pères, mais des Dragon Ball.
Des Dragon Ball.
Oui, et ta boule de cristal est en parfaite union avec les deux autres, c'est fabuleux.
C'était le premier épisode de Dragon Ball et on vient d'assister à un moment incroyable où Céline Monsara dit « Mais si, j'ai fait ça quand ?» avec Brigitte Lecordier en face, « C'est le premier épisode de Dragon Ball !»« Ah oui, c'est ça !»
Et oui, c'était déjà nous.
Oui, c'était déjà vous. Alors ma première question, parce que je connais beaucoup de comédiens et comédiennes de doublage et je sais qu'en fait il y a mille et un chemins qui mène à la profession de comédien de doublage. Donc comment respectivement vous avez commencé dans ce métier ? Céline ?
J'étais au théâtre, j'avais un camarade de jeu qui faisait du doublage et qui m'a dit un jour « Tu veux venir avec moi ?» J'ai dit « Allez ». Et puis je suis arrivée dans le studio, c'était une époque où on pouvait venir assister. J'ai assisté, on m'a fait faire un petit truc, c'était une époque il y a fort longtemps où il y avait énormément de films chinois, des films de karaté. Et j'ai commencé comme ça, voilà.
Donc vous avez commencé avec un film de karaté,
ouais,
il y a une VHS quelque part ?
Non, sûrement, mais je ne vous dirai pas laquelle.
Je vais chercher. Pour une prochaine émission, je vais le chercher, t'inquiète pas.
Philippe, Véronique ?
Mais alors pour ma part, moi j'ai bénéficié du premier stage professionnel qui est organisé par l'AFDAS et donc je me suis inscrit au premier stage de doublage. C'était en 1984, hein, ça date un petit peu, parce qu'en fait il fallait que je reste un peu sur Paris puisque ma fille venait de naître et donc je pouvais moins tourner au théâtre, donc je refusais un petit peu de partir en province et je me suis inscrit à ce stage de doublage qui était dirigé par Jean-Pierre Dora à l'époque et ça a plutôt pas mal marché pour moi, voilà, suite à ce stage.
Oui, a priori. Voilà. Véronique ?
Ben moi, après avoir fait des études théâtrales tout à fait classiques, j'ai intégré une troupe de théâtre à l'intérieur de laquelle il y avait une comédienne qui participait à des émissions de radio. Elle m'a fait venir à la radio et on m'a dit « Mais avec la voix que tu as, pourquoi tu ne fais pas du doublage ?» Je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne savais pas ce que c'était. Et donc j'ai assisté pendant des heures et des heures, voire des semaines, des mois, à écouter, observer, parce qu'on avait effectivement le droit d'entrer dans les studios à cette époque, et j'ai appris sur
le tas.
Donc
c'est quelque chose qui a changé désormais.
Ah oui, bien sûr. Maintenant, tout est fermé à clé, bouclé.
Confidentialité.
Voilà.
Et ouais, puis les jeunes comédiens arrivent déjà formés.
Ouais, c'est vrai. Déjà déformé.
Voilà.
Moi, j'ai commencé un mardi. Il faut être précis dans la vie.
Oui, est-ce que voilà. Voilà.
Il non. est avec moi.
Ouais, ouais. Non, mais je suis arrivé au moment où on cherchait des enfants, là où Brigitte, il avait trop entendu. Il dit tiens, ce serait bien d'avoir des vrais enfants. Et c'était à l'époque de la 5. Et,
il m'a remplacé.
Voilà. Ouais. Mais le grand remplacement du doublage. Mais,
c'est pour ça que je déteste.
C'est-à-dire, Donna Renew, vous avez commencé à quel âge?
J'ai commencé à 10 ans, à l'époque de la 5, donc il cherchait des enfants. Et c'était une amie de ma mère qui s'est occupée de beaucoup de versions françaises chantées, Claude Lombard. On parlait de la Reine des Neiges, tout ça. C'est elle qui s'occupait de ça et qui était une amie de ma mère et qui a travaillé quand elle s'était
chantait
choriste.
D'ailleurs de nombreux génériques de la 5 également. Ouais.
Et donc, à l'époque, il était plus petit que moi.
Oui.
Ah oui.
Oui.
Mais même pas la politesse d'y rester finalement.
Non,
parce
c'est
qu'il a fait une poussée de croissance.
Il m'a remplacé.
Oui.
Et
il
en
est plus
plus
grand.
Il a grandi.
Impertinence jusqu'au bout.
Vraiment. C'est nul.
Brigitte Lecordier.
Eh bien, moi, c'est un parcours. Hein. Moi, je viens du cirque en fait. Et du cirque, je suis passée au théâtre. Et au théâtre, on m'a fait jouer des petits personnages, je ne sais pas pourquoi, des enfants, des choses comme ça. Et je jouais Louison dans Le Malade Imaginaire. Et on est venu me chercher pour faire une voix pour une pub. Et de cette pub, on est venu me chercher pour faire du doublage. Voilà. Et en fait, j'ai commencé par un truc hyper... par des grands rôles, en fait.
Oh.
J'ai pas eu de trucs d'essai, alors que je ne connaissais absolument pas du tout le doublage. Et j'avais une camarade que j'estime, qui est mon amie encore aujourd'hui, qui s'appelle Jackie Berger, qui faisait beaucoup de voix d'enfants, etc. Et qui avait envie de partir un petit peu prendre l'air. Et au moment où moi, je suis arrivée, elle partait faire un tour du monde. Et elle a entendu mes...
ta démo.
Elle m'a entendue dans je sais pas où. Et en fait, elle a demandé qui est cette fille. Elle a laissé mes coordonnées partout. Merci, Jackie.
Alors, ce qui m'interpelle dans ce que vous dites tous et tous, c'est que vous venez du théâtre principalement. Et est-ce qu'il y a un plus dans la pratique de l'art dramatique sur scène pour faire du doublage que si, par exemple, on se destine à une carrière de comédien au cinéma?
Alors moi je dirais que le doublage apporte une émotion immédiate. On n'a pas la possibilité de se poser 30 000 questions, de refaire le film, puisque de toute façon il est déjà fait. Et donc en fait, tout ce qu'on apprend en faisant du doublage, on peut à nouveau s'en servir sur scène et en lecture, et particulièrement, on a tous fait beaucoup de lectures, et c'est vrai que les comédiens qui font du doublage, on les repère assez vite parce qu'ils lisent, on sait instinctivement ce qui va se passer après. Je sais pas si
c'est vrai.
Un truc comme ça qui fait que, ben voilà,
moi
ça fonctionne.
Moi je dis un peu que ce sont nos gammes.
Ouais. Moi je dirais deux choses. Véronique. D'abord que on entend beaucoup de gens nous poser la question quand même de savoir comment on devient acteur de doublage, mais on n'est pas acteur ou comédien de doublage, on est comédien avant tout. Il faut savoir interpréter des rôles, donc c'est bien aussi d'avoir pratiqué déjà ce métier, notamment sur les planches. Enfin moi je pense, parce qu'on apprend aussi à respirer, à voilà, il y a quand même une technique du jeu de comédien que je pense quand même primordiale. Et deuxièmement, je reviens un peu à ce que tu disais, Céline. Moi, j'ai appris une chose en faisant du doublage, c'est de me concentrer très vite. Et ça m'aide énormément au théâtre.
Tu te concentres ?
Ouais, ça m'aide. Mais alors, très vite.
On apprend tous les jours.
Terminé. Je ne sais plus ce que tu as dit.
Non, mais il est insolent avec tout le monde. Donald Renew est un sale gosse.
Ouais.
Ça, on le sait, on le sait.
Non, c'est vrai que le doublage, c'est un formidable training. Hein, pour les acteurs, parce que quand on a la chance de travailler beaucoup dans le secteur du doublage, c'est vrai que c'est un training pour la diction, pour la compréhension du sens d'une scène, etc. Ce que disait Céline, c'est-à-dire on a tout de suite les enjeux et on est obligé de tout de suite savoir, parce que souvent on commence par la fin d'un film ou la fin d'une série, après on revient au début, donc on apprend à se concentrer, mais vraiment sur et on a tout de suite les enjeux d'une scène, c'est-à-dire en lisant. Voilà,
c'est rarement chronologique, c'est-à-dire que c'est souvent décousu.
C'est souvent décousu parce que il y a un plan de travail, on n'est pas toujours libre en même temps, etc. Et donc le directeur ou la directrice artistique, elle fait fonction de nos nos emplois du temps. Donc, on peut commencer par la fin et puis revenir au début. Et puis voilà. Donc, mais il faut se concentrer très vite. Et puis, on a tout de suite les enjeux d'une scène, quoi.
Donc, en fait, dans ce découpage chronologique du temps, il faut à la fois avoir le savoir-faire des comédiens de théâtre, c'est-à-dire la lecture et être dans l'immédiateté des émotions. Mais il faut aussi avoir le professionnalisme des comédiens de cinéma qui vont pas forcément jouer les scènes dans le même ordre.
Exactement.
Donc, quand vous arrivez sur un film comme ça, combien de temps on vous laisse?
Ah, je pense que c'est...
Il y a un rire quand on dit long. Hein.
Bon, okay.
Brigitte Lecordier.
Enfin, très peu de temps, en fait. On regarde notre scène et on la joue. On n'a pas de répétition, on nous envoie pas le texte avant.
Oui.
Alors qu'un comédien qui va jouer au cinéma ou au théâtre, il va connaître son rôle avant de le jouer. Nous,
vous
on
n'avez jamais
connaît
le scénario
pas.
Avant.
Jamais. Non. Alors quand on est sur une série, ben on sait de quoi on parle. Mais quand on est sur un film, un long métrage qui arrive, alors on nous bien sûr le directeur artistique nous raconte de quoi il s'agit, etc. Mais on n'a pas plus de temps que ça. Autrefois, quand j'ai débuté en 1915. on nous faisait des projections privées sur les grands films. Aujourd'hui, ça se fait un petit peu, mais de moins en moins.
Ouais. Moins en moins. Ouais.
Pour des raisons de piratage.
Oui. Confidentialité.
C'est le mot de l'émission. C'est le mot de Céline. Vrai,
mais dit par Céline, c'est classe. Ouais. Confidentialité.
Ouais, c'est vrai. Et du coup, bah, en fait, oui, on regarde notre scène et puis on essaye de la jouer le plus rapidement possible, le mieux possible. Et c'est chouette aussi pour un comédien. Ça, comme je disais tout à l'heure, ce sont nos gamme. C'est-à-dire que c'est un véritable exercice. C'est un challenge. Ouais. À chaque fois, on se fait des petites peurs aussi, soi-même. Parce que des fois, on a des tunnels à raconter et on vient juste de les découvrir. Quoi.
Mais là, ce que j'aime bien dans le métier, quand tu fais un rôle principal sur et que tu as quasiment toutes les scènes, c'est que ça fait un peu comme un film interactif. C'est-à-dire, comme ça va très vite, comme ils le disent tous, on regarde la scène en VO, on la fait, si c'est bien, on la réécoute en VF, et après, suite, ce qui fait qu'on a c'est vraiment un jeu. Et quand il y a eu la grève des scénaristes et des comédiens en 2022, qui impacte toujours le métier aujourd'hui, je me suis dit, mais on m'a enlevé mon jouet, quoi. Parce que c'est vraiment un truc interactif, c'est ça que j'aime, c'est cette finalement, ce côté, il faut aller vite, bah, c'est un truc que j'adore pour cette raison-là.
Et on n'oublie pas une chose, c'est qu'on aime jouer. Voilà, il faut prendre du plaisir.
Mais oui.
On est ensemble pour parler du métier de comédien de doublage, et dans doublage, il y a double.
Oui, j'ai une transition toute pétée, je l'assume. Hein.
Comme dans Double Back de ZZ Top, qu'on écoute immédiatement.
Pour générer des 2,21 gigawatts...
2,21 gigawatts ? Mon Dieu !
Mais enfin, c'est quoi un gigawatt?
Yeah.
Blockbuster sur France Inter.
Simba, qu'est-ce que tu as fait?
Le troupeau, il a voulu me sauver. C'est un accident, je voulais pas ce qui est arrivé.
Bien sûr que tu ne le voulais pas. Personne ne peut vouloir des choses aussi horribles. Mais le roi est mort. Et sans toi, il serait encore en vie.
Je vois, vous croyez que tout ça n'a rien à voir avec vous. Vous regardez dans votre placard et vous choisissez, tiens, tenez, ce pauvre vieux pullover, par exemple, parce que vous voulez signifier aux autres que vous vous prenez trop au sérieux pour vous intéresser aux vêtements que vous devez mettre. Mais ce que vous ignorez, c'est que ce pull n'est pas simplement bleu. Il n'est pas turquoise, il n'est pas lapis. En fait, il est bleu céruléen. Qu'est-ce que tu fais ici?
Je suis vraiment désolée. Vraiment désolée. Je sais ce que ça fait maintenant. Elle essaie de prendre ma place. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Tu as volé mes affaires?
J'ai tout essayé pour être parfaite comme vous.
Mais cette moto, à qui elle est?
C'est un chopper, ma puce.
Ce chopper, à qui il est?
À Zed.
Qui c'est Zed?
C'était un pauvre type. Il est en enfer, alors qui est?
Vous vous prenez pour mon Marc? Vous croyez que vous allez me passer comme ça à vos amis? Je ne suis pas un jouet.
Mais non, vous n'êtes pas mon jouet, vous n'êtes pas mon jouet, je le sais. Viviane, Viviane, je vous parle. Venez ici. Ça m'ennuie de vous le faire remarquer, mais vous êtes une pute. C'est la vérité et vous êtes mon employé.
Je ne vous appartiens pas. C'est moi qui décide. Je dis qui, je dis non. Quand, je décide non. Tout.
Je refuse de passer 3 jours à me disputer avec vous. J'ai dit que j'étais désolé et je le pensais. Un point, c'est tout.
Je me mords les doigts de vous avoir rencontré. Et d'être monté dans votre bagnole à la con.
Vous venez d'entendre des extraits du Roi Lion avec Dimitri Rougel et Jean Pia, Le Diable s'habille en Prada avec Frédéric Tirmont, Black Swan avec Sylvie Jacob et Françoise Cadol, Pulp Fiction avec Patrick Poivet et Magali Barnet, et Pretty Woman avec Richard Darbois et Céline Monsara. Céline Monsara, Julia Roberts, la voix à laquelle vous êtes le plus souvent associée, même si pour ma fille c'est définitivement Dory, enfin Julie Roberts. Et comment ça se passe cette rencontre avec avec une voix qui tout d'un coup va être comme une sorte d'ange tutélaire avec lequel vous allez vivre?
Le hasard total. J'attendais pour un autre film dans un studio où il y a plusieurs plateaux. C'était la PM. Mmh. Oui, c'est PM ça. Production. Je te demande, j'ai oublié. Ah ouais. C'est le syndrome Dory. Et voilà, donc j'attendais. Et puis le directeur de plateau m'a dit, bah, tu fais rien, viens. Je m'arrache la tête parce qu'on a passé plusieurs essais. Et c'est les Américains qui décidaient. Et on n'arrive pas à trouver la voix qui colle sur le personnage. Et puis j'ai fait une scène. Et il paraît que c'est mon rire qui a fait qu'on avait des rires très proches et qui a été décisif. Donc voilà.
Et alors, être la voix idéale pour un film, c'est une chose, mais quand au bout d'un moment, bon, il y a un second film où on dit, ah bah, c'est de nouveau Céline qui va la doubler parce que c'est sa voix, qui décide en fait d'attribuer quasiment définitivement tel comédien?
Ça dépend. Alors, il y a des majors, il y a les directeurs de plateau, les maisons de doublage, les sociétés de doublage, ça dépend. Mais à chaque fois, on est sur des sièges éjectables. Hein.
Oui.
Il n'y a pas de voix officielle. Donc, on peut très bien, du jour au lendemain, dire, ah ben non, c'est plus elle. Je l'ai vécu, je ne sais pas si...
Tout le monde l'a vécu.
Tout le monde l'a vécu. Ouais. Donc, voilà. Donc, on est toujours... C'est très fragile.
Oui.
Voilà.
Il faut pas poser ses bagages.
Non, il ne faut pas croire que...
Oui.
Voilà.
Oui, je sais ce que c'est. Philippe Pétieux, Véronique, cette rencontre avec Homer et Marge. Est-ce que en doublant la première fois les Simpsons, vous vous êtes dit, bon, bah, on se revoit dans 36 ans?
Certainement pas.
Non, non, non.
Déjà, la première saison, il n'y a eu que 13 épisodes. Et si vous vous souvenez de cette première saison, on peut remarquer que les dessins sont assez grossiers, les personnages assez laids, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'était un ovni, hein.
C'était contre Disney. Enfin, voilà, parce que Disney, où c'était tout joli, les petits lapins dans la prairie, voilà. Nous, quand même, des personnages aussi ingrats à la peau jaune, c'était quand même assez inquiétant.
Ouais, non, non, et puis surtout, on savait pas du tout où on allait sur cette série, parce que bon, on était un peu dans l'obscurité des studios, et puis on s'est rendu compte, en fait, c'était sur Canal, et c'était diffusé en clair sur Canal, mais ça avait une diffusion confidentielle, hein, pratiquement. Et puis, au fil des saisons, on s'est rendu compte que il y avait le public, ça prenait sur le public, et nous, à notre grand étonnement, parce que on soupçonnait pas du tout d'aller faire 36 ans avec les Simpsons. Voilà.
Donald ?
Oui.
La rencontre avec Titeuf.
Ah oui.
Titeuf ou Spider-Man ? Parce que
les deux.
Les deux sont. Oui. D'ailleurs, c'est troublant de se dire, ah, Titeuf en grandissant, il se fait piquer par une araignée radioactive, il devient Spider-Man.
Ouais, clairement. Non, mais ouais, moi c'était. En fait, quand j'ai passé l'essai sur Titeuf, je suis arrivé sur le plateau, je me suis dit, ah, celui-là, faut pas le louper. Je l'ai senti. Et c'était un truc de fou. Et ça m'est jamais arrivé. Je pense que vous serez autour de cette table, vous serez d'accord. Je suis arrivé sur un plateau. Et il y avait 30 personnes qui s'écoutaient les uns les autres. Je fais, mais c'est quoi ce truc? Et j'ai vu tout de suite le coup fourré. Je fais, voilà, c'est pour 4 heures. Donc, je suis allé voir le directeur artistique. Je fais, par contre, j'ai 15 minutes devant moi. Et je suis passé devant tout le monde. J'ai fait mon truc. Et puis, ça a marché. Il m'a fait rester. Mais c'était horrible parce que les autres, ils regardaient. Et moi, je restais au micro. Et j'ai compris que c'était parti. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est le seul casting de ma vie qui s'est passé comme ça. Ça ne se passe jamais comme ça. On a toujours un créneau de 15 minutes. Et là, ils avaient pris la journée ou l'après-midi. Tout le monde s'écoutait les uns les autres. C'était lunaire.
Et du coup, les autres regardaient en disant oh, ils ont fait c'est mon rôle,
c'est violent.
Et après, je me suis mis à faire Hugo son pote, et pareil, j'ai pris les. C'était trop drôle.
Ah, oui. Donc voilà. Il y a une liste donc de 29 personnes qui vous haïssent, évidemment.
Ah, mais j'étais souhaité, moi, à cause de ça. Hein. Ah ouais, faut faire attention. Et en allant vite pour Spider-Man, ça a failli me passer sous le nez parce que je faisais Jesse Eisenberg, comme vous le disiez en intro, et comme je ne l'avais pas fait dans The Social Network Andrew Garfield, et ben, j'ai pas été pris d'office pour faire Spider-Man. Mais ils ont quand même fait un casting au dernier moment et ça s'est joué entre Julien Boniche et moi et j'ai eu la chance d'être pris et voilà, de rôle iconique que vraiment je remercie, c'est incroyable quoi.
Brigitte Lecordier, oui. Alors évidemment entre Oui Oui, Goku, Gohan, Piboudou.
Mais voilà.
Oui, pour les connaisseurs. Et forcément, comment ça s'est passé ces rencontres?
Ben, c'est toujours des rencontres magnifiques, mais effectivement pour Dragon Ball, ben j'ai fait des essais comme on fait des essais pour un dessin animé ordinaire, quoi. Et pour nous, c'était ordinaire. Je sais pas si toi t'avais fait des essais,
non,
Céline.
Non.
Moi, je dis que Eric en avait fait. Et Eric m'a toujours dit, j'ai jamais fait d'essai pour ça. Je suis sûre qu'il a fait un essai pour Yamcha.
Et mais personne veut dire qu'il a fait Yamcha. Mais, ça, c'est lié à l'histoire
en fait,
du monde.
Je crois qu'au départ, tout le monde était persuadé que les rôles principaux étaient Bulma, Yamcha et Goku, et que tous les trois en étaient au départ, quoi. Et puis et après, ben ça a été distribué. Ben, on n'était que six, donc voilà. Et effectivement, on pouvait pas imaginer que 40 ans après, on serait là. C'est complètement magique cette licence, voilà. Et pour Oui Oui, c'est pareil. J'ai fait des essais, j'ai été choisie. On ne sait jamais sur quels critères on est choisi. Mmh. Ça n'a jamais été magique pour moi les essais. À chaque fois que je pars en disant c'est pas pour moi, finalement je suis prise. Et à chaque fois que je dise oh, j'adorerais faire ce truc, il se passe rien. C'est très bizarre, mais.
Donc, pour Oui Oui, on vous a dit c'est oui pour Oui Oui.
On m'a dit oui oui.
Et oui oui, je sais quel est le rôle que je double, mais que je suis prise. Oui,
et
oui.
Ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, ben, j'ai fait grandir avec mes camarades des générations entières qui sont eux-mêmes créateurs et qui aujourd'hui font du dessin animé, font des films.
De toute façon, à vous quatre, je crois que j'ai jamais vu autant de monde passer en régie là aujourd'hui pour voir. Et dès ce matin, les gens me disaient oh là là,
la chance.
J'ai envie de leur dire que c'est un peu mon papa et ma maman.
Ça, c'est pas pour moi.
Si, Donald. Il y a une jeune fille qui est passée, elle n'avait pas le même ton que les autres. Hein.
C'est bon, j'ai eu la veine, mais retardement. Je n'y suis pour rien. Hein,
du coup, ce qui est chouette, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ces gens-là ont grandi, font de la création, et aujourd'hui, je travaille avec Petite Mort, avec Davy Mourier, qui a grandi avec Dragon Ball, et les Bobby Pills, qui ont grandi aussi avec Dragon Ball, et qui font du dessin animé pour adultes, pour mon plus grand plaisir.
Également sur.
Comment tu fais du hentai?
Non, oui. Pas du
hentai. Ah, pas celui-là, d'accord, pardon.
Pas encore.
On parle de voix marquante depuis le début de cette émission, mais il y en a un autre avec une voix marquante pour France Inter, c'est Benjamin Biolay avec Juste avant de tomber.
Mmh.
Il a dit que vous l'avez tué.
Non, je suis ton père.
Ça valait le coup d'essayer, le coup de la peine dorée. Le diable en déshabillé, vêtu de rien qu'un grain de beauté, de beauté. Ça valait le coup d'en finir, y en a même certains que ça fera rire, et d'autres bien emmerdés, bien parfumés, de noir habillés, belle persole fumée. J'écris ça juste avant de tomber, j'ai même pas vu ma vie défiler. De linge mouillé, mes lames à peine maculées. Je vous prie de me juger à l'aune de vos innombrables péchés. Vos péchés, quant à vous, sur le point de venir, mais que le moindre détail peut meurtrir. Vous qui certes encore confondez voie de départ et voie d'arrivée, corail et intercité. J'écris ça juste avant de tomber, j'ai même pas vu ma vie défiler.
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
Mademoiselle !
Oh, par Jupiter, ce que les gens peuvent être désagréables, que voulez-vous ?
Le laissez-passer à 38.
Vous avez le formulaire bleu ?
Le formulaire bleu ? Non.
Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38 ?
Et où trouverais-je le formulaire bleu ?
Guichet 1.
Mais j'en viens.
Non, tu sais vraiment pas où on est. Non, je plaisante pas, si ça se trouve, on est perdu. C'est vrai, tu sais pas, hein. Tu parles de vacances, dis donc, assez bien.
Je sais très bien où on est.
Tu parles que tu sais, on n'arrivera jamais nulle part. On risque d'être mordu, piqué par un animal, un cheval, une vache, et plein de vaches ici.
Arrête,
c'est
non, arrête,
non, ça y est, on est perdu, on a besoin d'aide.
Une minute, hein. C'est du nouveau.
Quoi ?
Nos chances de survie sont très bonnes. Je t'assure que tout va bien.
Tout va mal.
Ken, il faut que tu arrives à découvrir qui tu es sans moi.
Pourquoi ?
Tu n'es pas ta copine. Tu n'es pas ta maison, ni ton manteau.
La plage ?
Non, tu n'es même pas la plage. Peut-être qu'en réalité, toutes ces choses que tu pensais être liées à toi ne sont pas toi. Peut-être qu'il y a Barbie et qu'il y a Ken.
Ma
Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Tout désigne un flic.
Ou un ex-flic.
Oui.
Travis.
Et vous l'avez laissé filer entre vos doigts.
C'est plus près que vous n'avez jamais eu.
Être prêt, Rix, c'est être devant la vitrine d'une boutique de lingerie féminine.
Homer est un peu secoué à l'heure actuelle. Plus que son œil, vous avez blessé ses sentiments.
Fais-lui un de tes fameux murmures, Marge.
Mais quoi?
Tes fameux murmures, tu sais.
Mmh. J'ai jamais fait ce bruit de ma vie. Oh. Mmh.
Merci, Flanders, tu bousilles mon œil, détruis mon mariage. Alors débranche la prise et laisse-moi mourir.
Mais c'est la prise pour la lumière.
Vous venez d'entendre Les 12 travaux d'Astérix avec Roger Carrel et Odette Laure, Starsky et Hutch avec Jacques Balutin et Francis Lax, Barbie le film avec Dorothée Pousseau et Alexandre Gillet, Forrest Gump avec Jean-Philippe Puymartin, L'Arme Fatale 3 avec Jacques France et Véronique Augereau, Les Simpsons avec Pierre Laurent, Philippe Pétieux et Véronique Augereau une nouvelle fois. Alors on a entendu Jacques Balutin et Francis Lax qui avaient quand même pour habitude de modifier les doublages et ça s'entend, il y a une grosse part d'improvisation. Donc je vais vous demander respectivement, est-ce que vous avez déjà eu le loisir de changer un texte qui vous plaisait pas pour mieux coller à votre personnalité et à ce que vous vouliez véhiculer?
Écoute, je vais prendre la parole parce que je suis monsieur Easter Egg, j'en place partout.
D'accord,
ok. J'en ai encore fait tout à l'heure, j'ai fait une direction pour une bande-annonce et ça a été validé par Warner et ils ont fait, vous me suivez là-dessus? Ok, génial. J'adore faire des conneries comme ça, des petits Easter Eggs, c'est génial. Sur le jeu Spider-Man, j'ai fait n'importe quoi, j'ai placé des trucs, des inconnus dans tous les sens et ça a été validé, mais moi j'adore, c'est placer des petites refs comme ça, c'est mon grand bonheur là-dedans, c'est faire ça.
Moi, j'ai un souvenir de mes débuts. J'assistais sur le plateau, donc j'assistais, c'est-à-dire que je regardais, j'observais, comme je disais tout à l'heure, des comédiens comme Claude Nico, Claude Joseph, je crois qu'il y était, Philippe aussi,
oui,
donc
oui,
Philippe
oui,
Pétieux,
oui.
Voilà, et c'était sur Shérif, Fais-moi peur.
Ah, beau et loup du... Oui, voilà.
Je voyais la bande défiler... Et le texte ne correspondait pas, mais alors du tout, du tout, du tout. Et je dis, si c'est ça, le doublage, jamais je n'y arrive. Jamais. Mais c'était des fous, des fous. Et c'était accepté. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus difficile,
ouais,
parce qu'il y a des superviseurs,
oui,
sur, il y a, voilà,
surtout qu'il y avait personne dans les chaînes à cette époque-là pour s'occuper du doublage. Donc ça pouvait même passer, on pouvait oublier une boucle, ce qu'on appelle une petite séquence, et ça passait en anglais parce qu'on avait oublié. Et puis ça reprenait en français. Mais c'est arrivé, ça. C'était...
Mais du coup, ça a changé complètement la tonalité de certaines séries. Hein.
Ah bah ouais. Oui, complètement. Mais c'est vrai que Chéri, fais-moi peur, ça n'avait aucun
oui,
du coup.
Ouais. Évidemment, voilà. Évidemment, évidemment.
Nicky Larson, je vais te faire un bonbon.
Oui. Oh, c'est ta première mute, t'as peur des chats.
Je sais qu'ils n'appellent pas ma mute, mais je l'appelle ma mute quand même.
Non, puis Céline
Moi, j'ai le souvenir d'une séance de Schtroumpf. Puisque j'étais oui. Schtroumpfette, et que j'étais la seule d'ailleurs à connaître les Schtroumpfs, parce qu'ils avaient dépassé la date de péremption, pour ce qui les concernait tous. Et c'est vrai qu'on a eu une séance ou deux où c'était le patron de la boîte de doublage qui écrivait le texte, Michel Salva. Il n'avait pas eu le temps de l'écrire. Voilà. Et il nous faisait confiance. Et donc on a eu ça deux fois peut-être. On avait des traits comme ça, on avait le nom de personnage, on avait des traits. Voilà. Et donc j'étais évidemment avec des pointures. Il y avait Francis Lax, il y avait voilà. Roger était pas là tout le temps, mais bon, Roger Carrel. Il y avait Philippe Dumas, Serge Lorca, qui a jamais pu dire Schtroumpf. Et donc c'était une très très bonne école, quoi. C'était. Et puis j'ai fait deux ou trois Starsky et Hutch. Et ce qui était effrayant, j'étais toute jeune comédienne, c'est que et Balutin et Francis Lax, c'était impossible pour eux de laisser l'autre avoir le dernier mot. Donc ils rajoutaient toujours un truc.
Donc il y avait une surenchère.
C'était génial. Assez effrayant. Et on essayait de dire son texte au milieu de tout ça. C'est compliqué.
Brigitte Lecordier.
Oui, en fait, j'ai eu les mêmes aventures que Céline. En fait, on a eu un directeur d'entreprise qui écrivait les textes lui-même. Des fois, il était à la bourre. Et je me souviens de Cubitus, par exemple, que je faisais avec Balutin, Francis Lax et Roger Dumas. Et en fait, c'était de l'impro, quoi, complète. Et puis, mais c'était hyper sympa et c'était très respectueux, en fait, aussi du produit. C'est ça qui est incroyable. Et puis, ben, sur les Dragon Ball, quand même, on avait quand même une latéralité avec, parce que, ben, c'est les années 80, on était moins, aujourd'hui, chaque mot est validé. À l'époque, c'était plus libre. Et quand on avait des bonnes idées, ben, notre directeur artistique, qui était, Pierre Trabot, qui faisait aussi Tortue Géniale, m'a dit, ben oui, et c'est comme ça qu'est né aussi le Nuage Magique avec un jeu avec Eric Legrand, quoi, où on s'amusait à dire, ben, tu diras Violette ou tu diras machin dans la prochaine boucle, et à un moment il entend le petit truc du générique et il me dit, ça tu le placeras jamais, et puis on l'a placé, et Pierre Trabot a dit, ouais, c'est trop bien, et c'est devenu le Nuage Magique. Voilà,
c'est-à-dire génial. Quand c'est on a repris les Dragon Ball bien longtemps après, on avait tout d'un coup un superviseur qui parlait japonais. Ouais. Et c'était insupportable. Parce que... non, parce qu'il nous disait, c'est pas du tout ce qu'il dit.
Et du coup, mon nuage magique a disparu. Bah, parce que maintenant, je suis obligée de dire Kintohun. Alors je dis, mais c'est pas français.
Ah bon oui. Et quelle indignité.
Mais oui, tout le monde me demande de le faire dans toutes les conventions. Et
mais
ben
il
là,
il se passe des belles choses.
C'est pas japonais, en effet.
Mais ça s'entend.
Parce que Phil, pareil, pour Speeder Cochon, c'était normalement Speeder Porc.
Oui, c'était Speeder Porc.
Et ça s'est fait sur le plateau.
Et c'est vrai que je lui dis, je peux pas
Speeder Porc.
Speeder Porc, ça marche pas, ça fonctionne pas, c'est méchant. Et puis, donc, on a transformé avec l'accord de la Fox à ce moment-là, on a fait Speeder Cochon, puis on a changé toutes les en on, il marche au plafond, etc. Et du coup, ben, ça a été validé parce que je sentais, j'avais même pas terminé, j'ai dû faire deux prises, j'avais même pas terminé la première, j'entendais derrière. Et ce truc, ça a été Speeder Cochon, c'est 30 secondes de
film. Et c'est devenu un tube.
Et c'est devenu un tube. Tout le monde avait ça sur les sonneries de téléphone.
Ouais, oui, voilà. Et moi, j'ai la chance de travailler beaucoup en création de voix. Et en création, on est hyper libre, en fait, parce qu'on est avec le créateur, justement. Et tu proposes des trucs et ça, dès que ça les amuse, ils achètent, quoi.
Alors, on a parlé de Dragon Ball et j'aimerais profiter de cette émission pour rendre un hommage à un ami humoriste qui nous a quitté, Bunaimin, qui était fan,
un grand fan
de Dragon Ball, un grand fan de One Piece. C'était notre Nakama. Il est parti trop vite avec un talent fou.
Ouais.
En tant que fan de Dragon Ball, je pense que on n'a qu'une seule chose à faire désormais, c'est essayer de trouver cette boule de cristal.
Absolument.
Et le faire revenir. Mais voilà, une pensée à lui et à sa famille. Il était grand et on l'oubliera pas.
Grande pensée.
Ouais. Et on va faire une petite pause musicale en écoutant Why Should I Smile de Roseau et Mélissa Lavaux.
Why should I smile? Why should I smile for you? Voice once sublime, now whistle sour tunes. I have no time for cheap words, table wine. I have no time for thin saris from a swine. Why should I smile? Why should I smile for you? Tongue once divine, tasting foul since June. I have no space for double faces on my dime. I have no grace for my lovers in my crimes. Another day without you. I'm better off without you. Another day without you. I carry on without you. Why should I smile? Why should I smile for you? Action so vile. Speak clear and loud of you. I pay no mind to your begging and your pleas. I pay no mind even though you're on your knees. Another day. Moving on, gotta leave the
sur France Inter.
Blockbuster.
C'est une super émission, on dit plein d'horreurs avec Frédéric Sigrist.
Alors, depuis tout à l'heure, on parle de l'importance du doublage, parce que, je le rappelle, une grande majorité de spectateurs en France consomment les séries, regardent des films en version française. Et vu qu'on est d'accord pour mettre des prix des meilleurs costumes, des meilleurs effets spéciaux, du meilleur montage, comment ça se fait qu'il n'y ait pas encore un César du meilleur doublage ? Parce qu'en fait... Quand on fait revivre à un ensemble de spectateurs une émotion, c'est une partie essentielle, en fait, de l'appréciation d'un film.
Oui, Céline? Alors... oui. Il y avait beaucoup de snobisme autour de ça. Il ne fallait surtout pas dire, à une époque où moi j'ai commencé, on ne disait pas qu'on faisait du doublage. Ça ne se disait pas. Bon. Et puis maintenant, c'est presque...
Ouais, c'est presque bien.
Ouais, c'est presque formidable.
Non, c'est vrai que... Donc voilà. Quand j'ai démarré, moi, c'était une activité honteuse. Ouais. Parce que je travaillais avec au théâtre avec des gens du subventionné qui venaient du conservatoire ou du TNS. Et je me souviens, mais après une représentation, je prenais ma voiture et c'était en province, je prenais ma voiture pour enregistrer les Simpsons le matin et je revenais le soir au théâtre et je ne disais pas ce que j'avais fait. Mmh. C'était la VF, bon, il y avait quelque chose d'assez méprisant.
Assez méprisant.
Alors moi, j'ai fait une petite parenthèse parce qu'il existe quand même un festival qui s'appelle Voix d'Étoiles, qui a lieu fin octobre à côté de Perpignan, à Port-le-Cat, où il y a 5 films d'animation en compétition et on y remet un prix de la voix masculine, de la voix féminine et un prix de la bande-son. Voilà, c'est le seul festival
qui récompense les voix.
Voilà.
Les voix de l'animation.
Il faut le signaler quand même.
Voilà.
Donald ?
En fait, moi je trouve que c'est un super métier qui est beaucoup mis en avant aujourd'hui par des émissions comme ici ou ce qu'on peut faire sur le digital et surtout par les réseaux sociaux. Je trouve qu'aujourd'hui le doublage a pris un bel essor et sort de l'ombre et c'est plus un métier de honte et au contraire c'est vous avez bercé mon enfance et c'est le truc cool qu'on arrive à avoir avec beaucoup de monde, beaucoup de personnes et le métier a changé et c'est cool qu'il ait changé mais qu'il change de tête au moment où l'IA arrive, ça nous arrange moyen.
Oui.
Voilà.
Mais justement parlons-en de cette intelligence artificielle qui n'a d'intelligence que le nom parce que d'ailleurs même je réfute ce terme d'intelligence artificielle, disons ce plagiat organisé. En quoi il menace effectivement la profession de comédien ou comédienne de doublage aujourd'hui?
Je vais laisser la parole à Brigitte qui le dira mieux que moi.
C'est notre porte-parole.
Non, elle était moi. Non, en fait...
Genki Dama.
Oui, c'est ça. Toutes nos voix sont partout. Elles ont été complètement moissonnées par l'IA, par des gens qui ont envie de remplacer des humains par des robots parce que ça coûte moins cher, parce que ça fait du programme qu'on peut faire rapidement, etc. Et aujourd'hui, réellement, notre métier est complètement en danger. Hein. Et en plus, les gens qui sont pro-IA, justement, en disant « mais ça va créer des métiers », se trompent fortement. Parce que nos voix sont faites en IA, elles ne seront pas faites en France, elles seront faites à l'autre bout du monde, aux États-Unis, en Russie, etc. Parce qu'ils n'auront pas besoin des entreprises de doublage pour
français. Oui, ça doit être les mêmes qui disaient que l'ouverture à la concurrence des tarifs SNCF les fait baisser.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est les mêmes.
Donc, aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait des gens à la culture qui nous entendent, qui nous écoutent et qui fassent de cette exception culturelle. Hein, c'est une réelle exception culturelle, le doublage. Il faut savoir qu'on a fait un sondage IFOP, récemment, 85% de la population écoute tous les programmes confondus en VF. C'est quand même, c'est pas rien. Donc c'est 85% de la population dont on se fout quand on veut faire de l'IA, quoi.
Et alors, vous avez dit qu'il fallait un ministre qui s'empare du sujet, mais vu que je les connais, qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que citoyens pour vous aider ?
Les citoyens peuvent faire beaucoup, c'est-à-dire refuser d'acheter les choses qui sont faites à l'IA. Aujourd'hui, il y a des livres audio déjà qui sont... Alors, je suis pas pour le label, parce que ça veut dire qu'il y aura des choses bien et des choses pas bien. Oui. Alors, on va mettre de la merde pour les enfants, hein, comme on a fait beaucoup pendant des années. On dit, oh, ça passera bien, c'est pour les mioches. Hein. Et puis, on va faire des belles choses avec des beaux acteurs bien connus pour faire... je suis pas d'accord. Nous, on a toujours fait notre métier du mieux qu'on a pu. On l'aime, on est là pour jouer, pour donner des émotions, et c'est ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. Il faut continuer ça dans tous les programmes qu'on fait, que ce soit à la radio, que ce soit sur un disque, que ce soit sur un livre audio, que ce soit dans le doublage, dans le jeu vidéo. En ce moment, dans le jeu vidéo, nos camarades ont fort à faire, justement, avec des contrats qui les lie à l'IA, et à chaque fois qu'un comédien refuse, eh ben il est viré du jeu vidéo, quoi. Donc ben voilà, et ça veut dire qu'il faut demander aux gens qui achètent les jeux vidéo de regarder si les voix ont été faites par l'IA, ben ne pas l'acheter. J'ai quelques exemples autour de moi. Il y a un flight simulateur qui a été fait entièrement à l'IA. Il y a des gens qui m'ont dit en convention, ben d'habitude j'achète le dernier et là j'ai refusé de l'acheter. Ben faites tous comme ça et ça nous soutiendra et ben vraiment.
Voilà. On attaque au
portefeuille. Soyez vigilants.
Très bien. Merci beaucoup Céline Monsara. Merci Donald Reynoux. Merci Véronique Augereau. Merci Philippe Pitieux. Merci Brigitte Lecordier.
Merci
d'avoir été ensemble pour parler de ce métier qu'on aime tant, comédien et comédienne de doublage. C'est la fin de cette émission, une émission réalisée par Étienne Bertin, préparée par Lisiane Arbani et Benjamin Ducy, avec l'aide de notre stagiaire Amazir Amadaïn Guest. Et aujourd'hui à la technique, il y avait Paola Collin. Le répondeur, le numéro n'a pas changé, 01 56 40 30 20. Et pour parler avec moi, c'est Instagram, hashtag Fred Sigrist. Demain, on va parler du chef-d'œuvre de science-fiction de Shinichiro Watanabe, Cowboy Bebop.
Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.
Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a une pétition pour les doublages. On va la relayer sur mon Instagram et sur le site de l'émission. Mais tout de suite, c'est le mag de l'été avec Marie Misset. Bonjour, j'ai dit bonjour.
Bonjour, bonjour Frédéric Sigrist. Alors dans le mag de l'été, ce soir, on va bouger un petit peu la tête avec Flora Fischbach. Elle signe son retour, un nouvel album qui sort à la rentrée qui s'appelle Valsynth. Et on sera rejointe par la bassiste aussi de Pogo Car, Crash Control, qui a aussi créé l'association More Women on Stage. Donc deux femmes autodidactes qui ont tout appris toute seules et qui sont des bêtes de scène.
Eh ben, ça donne envie.
Ça donne envie.
Et Frédéric,
hein,
si je peux me permettre pour terminer cette émission, c'est vrai que le doublage, c'est des comédiens, c'est beaucoup de monde, mais on a perdu récemment un ami, Baptiste Alvarez, qui est, voilà, fait partie de cette grande famille du doublage, un ingénieur du son. On pense fort à lui, à sa famille, parce que c'était un bon, il va nous manquer, il est parti beaucoup trop tôt, je voulais quand même avoir un petit mot pour lui.
Voilà. Eh ben, tu as bien fait. Vous avez bien fait.